Nous allons entendre maintenant Danuta Libersky. À vrai dire, Danuta Libersky a été embarquée dans cette affaire à la suite d'une conversation que j'avais eue avec Stéphane pour préparer ce colloque, où Stéphane essayait de me dire que sur mon lit de mort, un robot, ce serait tout à fait aussi bien qu'une infirmière, et que je pourrais m'y attacher, avoir des sentiments, etc. Et alors m'est venue l'idée que c'était un discours d'animiste des modernes, c'est-à-dire d'être capable de prêter une âme à des objets. Et j'ai tout de suite pensé à demander à Danuta Libersky de se joindre à ce colloque, qu'elle a très gentiment accepté de faire. Donc, Madame Libersky-Bagnou est directeure de recherche au CNRS. Elle a longuement travaillé avec l'un des plus éminents africanistes, qui était Michel Cartry, qui était l'africaniste de l'EPHE, et elle a participé jusqu'à sa dissolution en 2005 à un centre de recherche intitulé « Système de pensée en Afrique noire », idée qui semble être devenue obsolète, qu'il puisse y avoir des systèmes de pensée en Afrique noire, apparemment, puisque, enfin, aux yeux du CNRS, apparemment. Et elle a mené ses recherches, puisque vous savez que les anthropologues, spécialement les africanistes, ont affaire à une sorte de dentelle de culture et qui sont très prudents en général, avant toute montée en généralisation. Et elles sont domaine, c'est l'ère voltaïque, où elle travaillait à plusieurs reprises dans la région Kassena, au Burkina et au Ghana. Et elle achève en ce moment, enfin, c'est imminent, un ouvrage qui devra paraître dans la collection de l'Institut d'études avancées dont elle a été ce qu'on appelle une Our Fellow, donc fellow de première génération, première pression à froid, un livre qui est intitulé, qui sera intitulé La souveraineté de la Terre, et qui, au fond, fait un retour critique sur nos propres catégories de pensée, notamment la catégorie propriété, qui, elle aussi, a une dimension fictionnelle assez forte, puisque penser que dire à la Terre, tu es à moi, la Terre rigole, si je suis un peu animiste, et dit, on va voir qui aura le dernier mot. Donc, en tout cas, pour ce tour de table, c'est Danuta qui aura le dernier mot avant la pause. Merci encore. Tu as un micro. Donc, tu nous parles de l'animisme des modernes, c'est ça?
Mais merci, Alain, de m'avoir, même si c'est un peu au débeauté, mais invité à participer à cette table ronde. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste du domaine de l'intelligence artificielle, vous venez d'entendre, mais enfin, sur l'animisme, j'ai quelque chose à dire. Alors, comme vous venez de l'entendre, bon, le champ de l'application de l'intelligence artificielle est immense, vous le saviez sans doute déjà, mais là, ce sont des spécialistes qui vous le confirment, immense et varié. Et quoi que vient de dire mon voisin, qui insiste qu'il y a peut-être des limites, il semblerait quand même qu'aucun domaine ne semble devoir lui rester longtemps inaccessible, y compris, donc on vient de l'apprendre, ceux qui caractérisent en propre l'homme, à savoir la créativité et les relations entre les personnes. Alors, bon, j'ai un point de vue tout à fait candide dans cette affaire, donc, qui est peut-être le vôtre aussi, ou certains d'entre vous. Je suppose que, comme moi, vous n'avez pas besoin de très longues explications pour comprendre les enjeux économiques et sociaux de ces speed factories, de ces usines sans ouvriers, qui est le nouveau fantasme entrepreneurial en cours de réalisation, ça et là, dans le monde. Il y a ces usines en Chine, en Allemagne, en France, permet quelques relocalisations, d'ailleurs, comme Adidas. Fantasme qui succède à celui des années 80 d'une entreprise sans usine, comme l'avait dit excellemment Alain Supiot dans son ouvrage « Homo juridicus ». Alors, de même, il est à la portée de tout le monde et de chacun d'entendre les avantages qu'il y a sur le plan collectif à utiliser des robots dans des environnements qui sont hostiles à l'homme. La planète Mars, les champs de mines, des régions frappées par une catastrophe, serait bien aussi d'ailleurs dans les usines nucléaires, mais ça apparemment c'est toujours du personnel sous-traitant qui nettoie les cuves, à ma connaissance, mais bon, bien sûr. Alors j'ai quand même moi personnellement quelques difficultés à saisir quels sont les réels bénéfices, et par réels j'entends des bénéfices autres évidemment qu'économiques ou des bénéfices de surveillance, Quels pourraient être donc ces réels bénéfices d'introduire la robotique, même pourvue d'une intelligence artificielle, dans ce domaine défini, qu'en langage convenu, on appelle l'aide à la personne, où, pour le moment, se concentrent donc la plupart des professions qui sont vouées au maintien, sinon à la réparation du lien social, précisément, du lien humain, avec les personnes âgées, avec les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, les personnes handicapées, les enfants qui souffrent d'autisme. Alors, il y a dans ce moi, j'appelle ça un forçage, et il y a une passion, là, qui m'interroge. De l'avis autorisé des roboticiens eux-mêmes, la fabrication d'humanoïdes susceptibles d'entrer en interaction efficace avec l'homme, c'est-à-dire des interactions qui vont perdurer dans le temps, hein, au-delà de l'effet de surprise ou de la curiosité, ça pose d'innombrables problèmes techniques qui sont très très loin d'être résolus. Enfin, on entend bien que ce que la technique peut réaliser doit être réalisé, donc elles seront peut-être un jour résolues. Mais on sent d'ailleurs, à lire ces roboticiens, que c'est en réalité cette recherche de résoudre des problèmes, c'est dans cette recherche que réside la plus grande part de leur passion. Parce que, disent-ils, ils apprennent précisément quelque chose sur la complexité de l'être humain. De leur point de vue spécifique de roboticien, évidemment, qui est d'en reproduire techniquement le comportement de la motricité fine à l'expression physique des émotions pour créer précisément un phénomène de projection chez celui qu'on appelle l'usager, c'est-à-dire nous, pour créer l'adhésion. Dans ce domaine de l'efficacité technique, il n'est évidemment pas question de chercher à comprendre ce qui fait réellement l'humanité de l'animal humain, hein, qui est là au croisement, Giuseppe Longo l'a dit, du physiologique, du sociologique, du psychologique. Le roi Gourand, puisqu'il a été cité, aimait dire que l'intelligence de l'homme avait commencé par ses pieds. Hein. Et on pourrait ajouter aussi dire qu'il pense avec son corps. Ça a été beaucoup mieux dit que moi par Giuseppe Longo. Il y a tout ce qu'on dit autour de l'intelligence humaine, de la mémoire du corps, les pulsions, les affects qui sont à la jointure du corps, du physiologique et de l'esprit. Mais pourquoi donc voudrait-on reproduire ce qui est d'emblée suspecté d'introduire des biais cognitifs ? C'est donc pas le problème des roboticiens. Alors, les problèmes qu'ils cherchent à résoudre ne sont pas tous d'ordre technique. Il y a aussi cette insistance particulière, cette question insistante sur le type et la qualité des interactions attendues entre l'homme et ses machines, sur les conditions qui seraient nécessaires et suffisantes pour que se maintienne, donc au-delà du temps de la découverte, sans que ne survienne de la désillusion, de l'indifférence, voire des réactions de rejet par rapport à la machine. La robotique, écrivent Denis Vidal et Emmanuel Grimaud, qui sont deux anthropologues, est hantée par cette volonté, par la volonté que ces créations réussissent leur rencontre avec l'homme. C'est étrange, non, comme passion. Ces deux anthropologues, avec quelques autres, ont investi la robotique humanoïde comme champ de recherche, observant ce qui s'y produit, les actes, les discours, lieux d'exercice, l'imaginaire, avec une précision toute ethnographique. Je vous recommande, c'est très impressionnant et très intéressant. Dans l'analyse de la brassée considérable de faits qu'il rapporte et les outils conceptuels qu'il propose, il y a un constat qui revient sous leur plume à plusieurs reprises. Sur ce chemin de crête entre l'artificiel et le vivant, donc aux frontières de l'humain, la robotique ne cesse en réalité de rencontrer des résistances et de se heurter à des impossibilités, à ce qu'ils appellent des interdits, des tabous. Finalement, en réalité, les ressorts de l'interaction entre la machine et les robots leur échappent. Ça échappe à l'analyse. La conception de chacun de leurs nouveaux robots tente en réalité un nouveau protocole expérimental pour essayer de comprendre cette interaction. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas ? Toujours selon ces auteurs, anthropologues, la question de concevoir des robots à forme humaine est en fait très récente. C'est une tendance des années 90 et qui, au départ, a surpris d'ailleurs nombre de roboticiens eux-mêmes, puisque c'est une vieille affaire, les roboticiens, la robotique. Et il semble que ce soit sous sur l'insistance d'industriels et donc d'investisseurs, avec quelques chercheurs privés, dans la recherche privée, que l'anthropomorphisme des machines est paru le moyen le plus sûr pour rendre acceptables les robots en tirant parti du pouvoir de fascination qu'est censé exercer la forme humaine sur les usagers. Et c'est là, sans doute, je ne devrais pas le dire, mais c'est peut-être là où il se trompe. Parce que cette voie de l'anthropomorphisation des machines a ses limites. Et c'est un roboticien japonais des années 50 lui-même qui a indiqué cette limite. Il s'appelle Masahiro Mori. Il a très vite perçu qu'il y avait un seuil de réalisme au-delà duquel l'artifice anthropomorphe, loin de séduire, provoque un sentiment de malaise et de rejet. Alors il a cherché à formaliser ça par une fonction, c'est un mathématicien. Il a donc essayé de formaliser l'adhésion ou le rejet en fonction du degré d'anthropomorphisation de l'objet mis en présence. Ça donne une courbe très explicite, très parlante, qui présente une ascension régulière. C'est donc au fur et à mesure que l'objet est de plus en plus ressemblant à l'homme, il y a une adhésion qui augmente. Et puis tout d'un coup, il y a un point de bascule, il y a une chute brutale. Et après cette chute brutale, il y a une remontée. Et ce moment de bascule correspond précisément à la mise en présence d'artefacts bien trop réalistes, type les figures de cire du musée de Madame Tussaud, mais des figures de cire qui se mettraient à parler ou à bouger comme un humain, à être trop vivantes. Et la remontée de la courbe correspond à des représentations idéalisées de la forme humaine, la statue, le visage calme de Bouddha, ou des marionnettes... chinoises. Alors, la forme même de cette courbe va l'inciter, Mori à parler de vallée de l'inquiétante étrangeté. Inquiétante étrangeté, ceux qui connaissent, c'est une expression évidemment qu'il a empruntée à Freud. J'y reviens, parce que le travail de Mori constitue j'y reviendrai parce que.
Pas trop longtemps.
D'accord, bon, alors je me dépêche. Alors, ça va plus vite que prévu. Alors, une des questions sous-jacentes non traitées dans ces travaux dans ces travaux d'anthropologue porte donc, j'en viens à l'animisme, sur l'étrange retour au cœur de cette pointe avancée de la modernité de nouvelles formes d'animisme. La robotique humanoïde n'est pas le seul domaine où la question se pose. Il y a évidemment le courant spirituel New Age, mais aussi on voit ressurgir l'animisme au détour de théories critiques très connues sur la place actuellement, qui portent sur le rapport de l'homme moderne à la nature. Ethnologue, comme vous le savez, africaniste, j'aurais pas eu grand-chose à dire s'il n'y avait pas eu justement cet étonnement par rapport à ce retour de flamme animiste au cœur de la modernité. L'animisme, vous le savez, c'est une forme de croyance, enfin vous croyez savoir que c'est une forme de croyance qui consiste à prêter une âme à des éléments de la nature, à des objets fabriqués par la main humaine. L'homme moderne croit savoir qu'il s'agit d'un mode de pensée qui est caractéristique d'ailleurs des civilisations pré-machiniques et des enfants. Il pense, lui, qu'il est à l'abri de ce type de croyance. Mais les choses ne sont pas si simples, parce qu'en fait, la relation des modernes à l'animisme est à double entente, elle a double lien. D'une part, ils en sont l'inventeur, c'est eux qui ont créé le concept, mais c'est aussi, l'animisme est aussi leur par leur agissement qui relève de cet animisme qu'ils imputent à autrui. Moi, je soutiens l'hypothèse que l'animisme, en réalité, n'est jamais sorti du cercle de la modernité. Alors, dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous faire entendre. Donc l'animisme fait partie de ces taxons, fétichisme, totémisme, chamanisme qui ont été créés par les Européens au fur et à mesure qu'ils prenaient connaissance des faits rapportés par les premiers observateurs au sujet de sociétés exotiques. Aujourd'hui, c'est devenu une étiquette commode pour indexer la religion des autres. De sociétés qui, retenez-le quand même, hors des grandes religions importées, ne jugent ni utile ni nécessaire de nommer les croyances et les pratiques rituelles qu'elles observent. Alors, ça n'a pas toujours été ainsi, parce que l'inventeur du concept, Taylor, qui a introduit donc la notion au XIXe siècle, voyait dans l'animisme un penchant universel qui était propre à l'imaginaire humain. Il pensait retracer avec ce terme l'intimité profonde, non seulement généalogique, mais aussi psychologique entre l'homme civilisé et l'homme sauvage. Alors, ça a été repris par Jean Piaget, qui a vu dans l'animisme un stade de développement cognitif de l'enfant. La pensée animiste renvoie à ce moment-là à un mode égocentré de compréhension du monde où des objets et des éléments du monde sont dotés de caractéristiques humaines. C'est donc plus une forme de croyance, mais un mode de pensée propre à un stade précoce de développement de l'intelligence opératoire. Bon, des recherches récentes en psychologie expérimentale démontrent qu'en réalité, il avait tout faux et que dès le plus jeune âge, l'enfant fait très très bien la différence entre ce qui est animé et inanimé, mais en fait, il prête vie à ses jouets selon le mode du comme-si. On va faire comme-si, on a tous joué à « je vais faire comme-si, toi t'étais le méchant et moi le bon » ou le gendarme, enfin voilà. Et il fait ça avec ses jouets. C'est toi le gendarme. Bon, il ne me reste plus beaucoup de temps. Avec l'avènement de la mécanisation du monde, de nouvelles formes d'animisme ont fait irruption dans le monde moderne. Et le mouvement futuriste et son chef de file, Tommaso Marinetti, en offre d'un éloquent échantillon. Il a porté un enthousiasme au sens de délire sacré pour les machines modernes, qu'il a porté entre autres au fantasme d'une fusion organique entre l'homme et la machine. Les transhumanistes sont les héritiers des futuristes italiens qui ont mal tourné. Comme vous savez, ils sont quand même devenus fascistes. Alors, la voiture devient une femme à séduire, une mère qui enfante. Il rêve d'un homme nouveau au corps de métal, une sorte de centaure, symbole de résistance, etc. Il a même survécu à un moment donné à un accident et il a raconté comme cet accident était pour lui, il décrit une nouvelle naissance dans la boue, un mélange dans la boue et le métal fondu de son véhicule. Bon, bref, de façon moins flamboyante, au XXe siècle, c'est des cohortes de conducteurs de voitures qui ont fait preuve de cet animisme des mécanismes dont parle le philosophe Maldini et dans lequel il a repéré, et je pense que c'est ça la piste qu'il faut suivre, une nostalgie du vivant. En fait, l'animisme n'est rien d'autre qu'une nostalgie du vivant. Et bon, à contrario, alors on arrive aujourd'hui dans cet animisme surgi avec la robotique anthropomorphique qui est très différent parce que cet animisme n'est plus spontané, il est instrumentalisé, il est recherché. Qu'est-ce qui pourrait susciter une forme d'animisme ? Qu'est-ce qui pourrait déclencher cette soi-disant disposition animiste chez l'homme qui ferait qu'il s'attacherait aux créatures artificielles, les robots. Chercher le mécanisme psychique de la projection, donc. C'est inutile qu'il ressemble à un homme, en fait. Ça fait plutôt l'effet inverse. Parce que ce mécanisme de la projection, on l'a tout le temps. Il n'est pas nécessaire que l'objet nous ressemble pour qu'on projette sur lui des intentions, des émotions, des caractéristiques humaines. Il suffit de lire les éthologues par rapport aux animaux. Ce n'est que de la projection. Il y a de l'observation, attendons-nous, je ne veux pas mettre de... mais enfin, c'est essentiellement l'homme emplit le monde de son image. Il est inutile de lui faire que l'artefact lui ressemble pour qu'il entre en relation avec lui. Alors, je vais essayer. Donc, pour moi, l'animisme est le corollaire d'un monde d'où a été précisément évincée la relation d'interlocution que l'animal parlant a de tout temps et en tout lieu cherché à établir avec son milieu. Il serait que la conséquence de cette fantastique révolution épistémologique qui a rendu la nature à jamais muette. Si je puis me permettre quand même à propos de l'inquiétante étrangeté d'introduire un dernier mot, pour Maury, c'était une manière de mettre en garde ses collègues justement de la tentation de fabriquer des robots trop semblables. Alors il a repris la formule de Freud, mais il aurait été bien d'en garder aussi le tranchant conceptuel. Et rappeler par exemple que précisément, c'est parce qu'une représentation familière et l'affect qui est lié à cette représentation a été, dans un temps antécédent, réprimée, rendue étrangère à soi, que son retour dans le réel provoque le malaise provoque ce sentiment d'inquiétante familiarité, en fait, parce que c'est ça le sens littéral du terme qu'utilise Freud. Ce qui suscite ce sentiment d'inquiétante étrangeté des figures anthropomorphes, comme les figures de cire, c'est qu'elles renvoient par leur précision anatomique à la familiarité d'un corps qui serait précisément privé de vie. Ce qui ne peut manquer de nous rappeler, sur un mot très concret et très peu effrayant, cette chose dont, en général, au quotidien, on ne veut rien savoir, c'est la certitude de notre propre mort. Et si ce corps privé de vie, quel objet anthropomorphe, tout à coup s'énime, jugé de l'effroi, c'est un effroi qui serait provoqué en tout point semblable à celui qui nous saisirait si, à la vue d'un cadavre paisible, déjà c'est dur parce que c'est nous renvoie à notre mort, mais si tout d'un coup il se mettait à parler ou à se bouger. D'ailleurs, il y a eu une expérience qui a été faite comme ça au musée de Cire, où des vivants se mettaient derrière les statues. Je ne sais pas si vous avez pu... C'était un gag, hein, c'était pour faire rire, mais ça ne faisait pas rire les gens du tout. Alors, si, il y a quand même un dernier point.
Dernier. J'en fais la pause.
C'est que Max Müller soutenait la thèse, parce que c'est pour revenir à cette situation de relation d'interlocution du monde, d'interlocution avec le monde, que en dehors du monde moderne ont d'autres civilisations pré-machiniques. Et un vieil anthropologue du siècle dernier, ou même du 19e siècle, soutenait la thèse que la mythologie n'était rien d'autre qu'une maladie du langage. Il entendait par là dire la potentialité qui est inscrite à même la langue d'animer n'importe quel élément, n'importe quel objet, de le vêtir d'une personnalité par le simple choix d'un pronom et de le doter d'une capacité d'agir par le simple choix de verbe. Cette capacité de la langue à faire advenir comme instance douée d'agentivité toute chose dont on parle, le langage scientifique n'y échappe pas, en fait, en réalité. Parce que quand on dit qu'un algorithme apprend, ou que le robot réagit, répond, ou encore quand face à son ordinateur figé, on dit, et qu'il n'y a rien à faire, on dit « ah ben non, il ne veut pas bon. ». Eh bien, toutes ces manières de dire, elles sont grosses d'un animisme latent, ordinaire, auquel on ne prête pas attention. Et précisément, et c'est là je termine vraiment pour dire, parce que j'y tiens, c'est que les civilisations qu'on a dit animistes, pour moi, ne le sont pas. C'est autre chose. Mais c'est très précisément cette possibilité, cette virtualité, cette propriété du langage qu'explorent et exploitent ces sociétés, mais à cette différence que de ne pas le faire au quotidien. Ils ne vivent pas dans un monde halluciné du magicien d'Oz, mais ils le font uniquement dans le cadre codifié d'un procès rituel. Les formes de polythéisme qu'on rencontre en Afrique n'ont d'autre existence qu'au cours du sacrifice, dans ce temps où le sacrificateur, avec la parole, prélève à même les objets, à même les gestes, les lieux, des instances dont il fait des instances allocutaires dans un procès de parole illocutoire. Et honnêtement, à lire tout ce qui se dit sur l'intelligence artificielle dans les formules justement d'utilisation comme l'apprentissage profond, etc., j'ai parfois l'impression d'entendre le géomancien Gourmandchier qui interprète pour son devin les algorithmes divinatoires qu'il vient de faire apparaître sur le sable, parce qu'on nous voit alors à l'écouter s'animer ces algorithmes qui, tels des personnages, se déplacent de maison en maison géomantique, disparaissent, reviennent, et leur parcours traçant le cheminement d'un sens que cherche à capter le devin pour son client.
Merci beaucoup.